le spécial du balado de Book & You. Après 2 ans de pause, les salons du livre à Québec et à Montréal étaient de retour. Jennifer Dommer était sur place et a rencontré 5 autrices et auteurs pour échanger sur leurs nouveautés. Aujourd'hui, elle parle avec...
Jean-Philippe Barguérard, je suis auteur, comédien, j'écris du théâtre, de la télévision et des romans depuis une dizaine d'années environ. Heard it for the first time at 16, thought
it was a daydream, didn't wake up. C'est la 5e journée du salon où on se retrouve. Puis comment le salon s'est passé pour toi et quelle signification, en fait, le salon a pour toi?
Le salon, pour moi, c'est un bon baromètre de mon lectorat, en fait, parce que j'ai eu une carrière littéraire qui a une montée très, très constante. C'est-à-dire que d'année en année, je publie des choses et au début, c'était très anonyme. Puis maintenant, j'ai de plus en plus de fans, je le vois. Et cette année, c'est fou parce que j'arrive, je m'installe pour ma séance de dédicace puis j'ai déjà une file de 30-40 personnes. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Puis je pense qu'on n'est pas... Ce que j'aime beaucoup du salon, c'est que ça permet de prendre conscience qu'on a un lectorat, finalement, parce que tu sais, quand on est seul c'est chez soi, puis qu'on écrit le livre, on n'en a pas la moindre idée. Puis même une fois qu'il est sorti, oui, on va avoir des critiques, oui, on le sait que le livre vend, peut-être qu'on a des commentaires qu'on va recevoir sur les réseaux sociaux, mais pas tellement. Là, ça devient comme très, très concret, fait que j'aime ça. Puis c'est vraiment cool de le voir en venant chaque année aussi, je peux voir une progression, tu sais. Puis moi, je me rappelle que les premières fois que je suis venu au salon, ben c'était une heure, puis il y avait une personne qui venait, puis elle me demandait où étaient les toilettes. Puis là, ça a changé.
Tu mentionnais les critiques. Est-ce que tu les lis?
Oui, je les lis parce que je suis trop curieux. Je veux dire, j'ai pas le contrôle de moi-même, un contrôle de moi-même suffisant pour me retenir les lire. Je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais en tout cas... Mais aussi, je suis quand même chanceux parce que, tu sais, j'ai majoritairement eu des bonnes critiques pour tous mes livres, donc je suis vraiment chouchouté par la critique, donc ça m'aide. Mais il reste que j'ai beaucoup de plaisir à les lire parce que, ultimement, c'est des rapports de lecture, c'est des expériences de lecture, donc ça me permet de voir ce que les gens voient dans ce que j'écris, comment ils réagissent à ça, tu sais. Puis aussi, je pense que, tu sais, on est quand même chanceux au Québec, mais ça se voit aussi ailleurs dans le monde, mais tu sais, il y a eu un déplacement aussi du journalisme culturel. On s'éloigne de plus en plus de la critique, puis on se dirige plus vers de la curation, des recensions de lecture, ce qui fait qu'un très mauvais livre, généralement, on va juste pas en parler. Puis si on décide de prendre du temps dans un média pour parler d'un livre, bien généralement, c'est parce qu'on l'a aimé. Tu sais, on fait de la curation, ce qui fait que ultimement, je trouve ça plus intéressant parce que ça enlève beaucoup d'aspects négatifs dans la discussion, d'abord. Puis, deuxièmement, ben, tu sais, comme lecteur aussi, moi, j'ai pas besoin de savoir si un livre est mauvais. Tu sais, je veux avoir un tastemaker, quelqu'un qui me dit, hey, ça m'a parlé, puis je vais aller l'acheter après. Tu sais.
J'ai pu observer un peu justement les gens qui attendaient pour te rencontrer, puis tu partageais des anecdotes.
J'essaie toujours de commencer par c'est qui, leur poser des questions à eux, c'est qui ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis rapidement, je peux trouver une accroche, puis à comprendre pourquoi ils sont intéressés à mes livres. Tu sais, souvent, j'ai des étudiants qui vont venir me voir, qui ont lu, par exemple, Royal, donc la question de la performance, de la pression, tout ça, ça leur a parlé. Fait que là, rapidement, j'ai une porte d'entrée là, je peux parler avec eux, ou alors c'est des parents qui ont des enfants d'âge universitaire, puis ça les stresse, ce thème-là. Donc, moi, j'essaie de voir d'avoir un petit peu d'échange avec eux pour comprendre, mettons, par où ils sont arrivés à mes livres, qu'est-ce qui leur a parlé dans mes livres, en quoi ça fait écho à leurs préoccupations. Aussi, tu sais, moi, j'aime ça aussi savoir dans quel ordre ils ont lu, comment ils en ont entendu parler, par qui ça a été recommandé, comment ils ont découvert, ou s'ils n'ont pas lu, qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de l'acheter. Peut-être des fois, ils sont juste passés devant. Puis moi, ça m'est arrivé des gens, par exemple, qui m'ont dit « Hey, je suis juste passé devant le stand de la maison d'édition. Je trouvais que les couvertures étaient tellement belles. J'ai acheté les livres. » Puis ça aussi, je trouve ça génial parce que ça, c'est quand même une fleur qu'il faut que je lance à mon éditeur. La signature visuelle est incroyable. Fait que c'est le fun. Ces petites histoires-là, ça m'aide à comprendre comment mes choses sont reçues. Puis moi, c'est important pour moi de savoir comment mes livres sont reçus. J'écris pas de l'art pour l'art. C'est un dialogue avec le public. Puis j'ai besoin de comprendre si eux reçoivent ce que je voulais dire. Puis s'ils ne reçoivent pas ce que je voulais dire, mais qu'ils reçoivent autre chose, bien, c'est quoi? Puis des fois, ça, c'est tout aussi intéressant.
Je suis contente que tu mentionnais justement ton éditeur, ta mère. C'est un des éditeurs qui se sont créés il y a une dizaine d'années. Par les pages couvertures, c'est Benoît Tardif qui a un style très spécial et on va le reconnaître beaucoup. Et moi, j'ai remarqué, il n'y a pas seulement ton plus récent livre avec lequel ils partent, mais vraiment avec deux, trois
Oui, ça, c'est incroyable. Les gens deviennent... Puis c'est intéressant aussi de voir à quel point... moi, je le remarque en restant actif longtemps, puis en sortant des livres régulièrement, c'est que je finis aussi par mettre en valeur le reste de mon répertoire. Donc, finalement, il y a des livres qui ont été publiés il y a 4, 5, 6, 7, 8 ans qui, finalement, reconnaissent un regain d'intérêt parce que je viens de sortir quelque chose de nouveau ou parce que mon dernier roman a été beaucoup plus discuté, disons, dans l'espace médiatique. Et en plus de ça, un effet d'émulation. Quelqu'un vient pour acheter mon dernier livre et achète d'autres livres du même éditeur parce que bon, c'est à côté, puis la couverture est belle et tout ça. Il a créé... Moi, je trouve que ta mère, quand même, oui, publie beaucoup de choses. Puis oui, il publie dans un style très, très large, mais il reste qu'ils ont toujours été dans des littératures un peu plus edgy quand même, ce qui fait que les gens qui viennent, par exemple, à la maison d'édition parce qu'ils ont aimé mes livres, bien, c'est certain qu'ils vont trouver d'autres auteurs qui les intéressent beaucoup à l'intérieur de la maison d'édition. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant, une maison d'édition qui a une signature forte comme ça.
J'ai lu ton premier roman, Sport et divertissement. Je n'en ai pas eu l'occasion de lire les autres, mais j'ai quand même profité justement sur le stand de commencer à feuilleter aux démolitions. Donc, la nouveauté que tu présentes d'abord au Salon du livre, parle-moi un peu de ce roman-là.
Haute démolition, c'est un livre que j'ai publié donc, l'an dernier qui s'attaque à quelque chose qui est très sacré au Québec. Ça, bon, je me suis toujours intéressé aux notions de pouvoir, à la politique sous ses formes, rarement dans un contexte de politique partisane, mais tu sais, relié à l'argent, relié au pouvoir d'entrepreneuriat, aux questions de classe sociale aussi, à l'élitisme. Puis au Québec, l'humour, c'est gigantesque. C'est la plus grosse industrie culturelle qu'il y a. Per capita, je veux dire, le nombre d'humoristes qu'on a, c'est énorme. L'argent que ça génère aussi. Puis les humoristes, en plus, sont dans toutes les sphères. Ils font du stand-up, mais ils sont comédiens à la télévision, ils sont scénaristes. Il y en a qui sont aussi romanciers. Il y en a qui finissent par être animateurs ou même qui vont parfois aller dans le genre de journalisme humoristique, tout ça. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment partout. Ils prennent beaucoup de place. Cette espace-là a beaucoup été décrié à travers les années parce que, par exemple, des comédiens qui disaient « Hey, on a l'impression de se faire voler notre travail par des humoristes. » Le débat sur la place que les humoristes prennent au Québec fait rage depuis longtemps, mais le fait est que les Québécois aiment ça parce qu'ils sont populaires. Les billets se vendent, ils prennent de la place et les gens veulent les voir. Un film avec un humoriste qui joue dedans, ça attire les foules. Puisque je m'intéresse au pouvoir, j'ai voulu raconter une histoire où on a des personnages qui évoluent dans ce milieu-là puis qui bénéficient de cet œil-là du public, qui ont ce pouvoir-là. Et donc, et à travers ça aussi, je voulais raconter une histoire d'amour où la collaboration artistique finit par un peu envenimer une relation de couple puis causer une rupture. Donc, c'est l'histoire de Raph, qui est un jeune humoriste qui sort de l'école de l'humour, l'École nationale de l'humour. Ça aussi, c'est une particularité québécoise. On a ça au Québec, une école de comédie. Pas beaucoup d'endroits qui ont ça dans le monde. Et ça il y a plein d'humoristes très populaires au Québec qui ont gradué de l'école. Donc, Raph sort de l'école de l'humour, ça fait 2 ans, ses affaires n'ont pas décollé autant qu'il voulait. Il y a un ami, Sam, qui était dans sa classe, qui lui, ses affaires vont super bien, il est très envieux. Et en plus, bon, ça, il n'y a pas beaucoup de succès avec les filles. Et un soir, va dans un party, rencontre une fille, un gros crush sur elle, et elle lui dit « Écoute, j'ai un super pouvoir, je peux lire l'avenir. » Et je sais ce qui va nous arriver. Et elle se met à lui raconter leur avenir, qui est, ils vont rentrer ensemble, ils vont tomber amoureux, ils vont commencer à collaborer, elle va devenir scripteuse pour lui, et lui, sa carrière va vraiment mieux se développer, il va devenir très populaire grâce à elle, d'une certaine façon, et il va devenir une superstar de l'humour, mais éventuellement, leur relation va se compliquer, elle va finir par le laisser, puis il va être plongé dans une violente peine d'amour de laquelle il va avoir du mal à sortir, puis qu'il va essayer de un peu de remplacer l'amour qu'il a perdu avec elle par l'amour du public. Tout ça, évidemment, mêlé avec des questions de problèmes de consommation, puis d'excès de pouvoir et tout ça. Et donc, toute cette histoire-là est racontée du point de vue de la fille, de Laurie, qui raconte l'histoire à la deuxième personne du futur. Donc, c'est comme si tout le livre était une sorte de prémonition. On annonce l'avenir. Donc, c'est un style qui est assez particulier, qui demande peut-être un plus grand effort de lecture. Mais moi, je me pose toujours beaucoup de questions sur la posture du narrateur. Où est-ce qu'il est physiquement, où est-ce qu'il est dramatiquement par rapport aux autres personnages, où est-ce qu'il est dans le temps, de quel point de vue il raconte l'histoire, ce qui fait que j'essaie toujours de trouver une façon originale. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui veut travailler la forme pour la forme, mais J'ai tellement besoin que la façon de raconter l'histoire serve l'histoire elle-même que je finis toujours par essayer d'avoir une narration très particulière pour chacun de mes romans. C'est ce que j'ai choisi pour Démolition. Puis je suis vraiment content parce que c'est très unique. Là. C'est sûr que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont écrits comme ça.
Et qu'est-ce qui vient après le salon? T'as un nouveau sujet déjà trouvé?
Je travaille sur un roman sur l'éco-anxiété, éco-terrorisme, militantisme environnemental. Actuellement, justement, je suis dans mes recherches. Là, je parle avec toutes sortes de personnes dans le mouvement environnemental. Je vais comme faire une... C'est l'histoire de quelqu'un qui est un parent qui veut faire de son enfant une sorte de figure de proue, une genre de Greta Thunberg, mais l'enfant n'a pas vraiment demandé à ça du tout. Puis, donc, il est un peu. Donc, tu sais, beaucoup. Donc, la question de l'environnement et la question aussi des exigences qu'on peut avoir pour nos enfants, puis de comment un peu le syndrome de Pygmalion, de vouloir de faire quelqu'un quelque chose alors que lui, il n'a pas demandé ça.
C'était un épisode du spécial du balado de Book & You avec Jennifer Domer et Jean-Philippe Barré-Guérard, soutenu par l'Association internationale des études québécoises. It's